Salut, c'est la revanche des hérissons.
La revanche des hérissons.
Une émission en non-mixité, trans, PD, green, meuf et féministe.
Ça va piquer.
Ça va gratter.
On parle de l'actu.
On fait des reportages.
On dit nos coups de cœur.
On s'amuse.
On met de la musique.
On parle de lutte.
On prend la parole et on la donne.
Et aussi, on fait un agenda.
Vous connaissez l'histoire de Paf le hérisson ? C'est un hérisson qui traverse la route et paf, le pneu.
Et si, un jour, un événement changeait le monde entier ?
Allô ?
Pardon de vous appeler si tôt.
Vous vous souvenez de votre intervention à New Delhi sur la fonte de la calotte polaire qui pourrait perturber le courant Atlantique Nord?
Oui.
Je crois que c'est ce qui se passe.
Tokyo a été frappé par des grêlons d'une taille jamais observée.
En Nouvelle-Écosse, le niveau de la mer est monté de 8 mètres.
Vous savez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde? Le gouvernement doit prendre des mesures immédiates et à long terme.
Dites-nous sans détour ce que vous proposez, professeur. Que fait-on pour la population au nord?
Si les gens vont dehors, la tempête les tuera.
Dépêche!
Leur meilleure chance de s'en sortir, c'est de rester à l'abri et prier.
Salut!
Salut!
Salut! Alors aujourd'hui, on est dans l'émission de JetFM 91.2, dans la revanche des hérissons. Et on va vous parler de collapsologie, qui est le thème commun à Jet pour le mois d'avril. Et alors, la collapsologie, c'est l'étude de l'effondrement. Et l'effondrement, c'est quoi? C'est ce que tout le monde se demande. Non, et c'est ce qu'on va essayer de cerner dans cette émission. Donc d'abord, on va vous passer un sketch et ensuite, on va ouvrir notre gros dossier et on va parler de catastrophes un peu, mais surtout de politique, de capitalisme, de récupération de lutte et d'impérialisme.
Alors, vous l'avez lu?
Ouais, ça m'a trop ouvert les yeux, ça a été une vraie révélation.
De quoi vous parlez? Bah, de son nouveau livre. Il est sorti il y a 2 semaines, t'es pas au courant? Tout le monde en parle en ce moment.
Ben moi du coup j'ai commencé à faire des réserves.
Oui, nous on a construit un bunker dans le jardin avec un lombricomposteur intégré.
Moi j'ai acheté des boîtes de conserve pour tenir jusqu'à 2050. Mais t'inquiète, je les ai mis dans un coffre-fort pour pas me les faire piquer par les gens qui auront rien prévu.
Mais qu'ont pas prévu quoi? Bah, l'apocalypse voyons. Ah non, t'es pas dans ta phase de déni. T'inquiète, tu vas bientôt comprendre.
Ah ouais, moi quand j'ai lu le livre, j'ai tout compris. Tout s'est dévoilé, tout a été clair d'un seul coup.
Mais de toute façon, en 2050, on sera toutes mortes.
Ouais, mais c'est aussi pour nos enfants et pour nos petits-enfants.
Moi, au début, quand j'ai compris ce qui allait arriver, j'étais dans une phase de colère et de peur. Mais maintenant, j'ai accepté et je suis sereine.
Ah ouais, mais c'est vraiment méga flippant ce que vous me racontez là, en fait.
Non, mais c'est normal, t'inquiète pas. Au début, c'est dur à encaisser. Mais il faut réussir en fait à dépasser la dépression pour entrer dans une certaine forme de résilience, tu vois, par rapport à soi, pour mieux rentrer en communication avec les autres et aussi avec la nature.
Mais c'est politique du coup comme truc?
Non, rien n'est politique. Tout est une question d'intuition et de raison, d'essence et de nature.
Voilà, donc vous avez peut-être rien compris à ce petit sketch. Voilà, bah, c'est peut-être un peu ça la collapsologie.
voilà, ça nous faisait marrer de faire ça pour introduire un peu le sujet. Et du coup, maintenant, pour causer de collapsologie, on va s'écouter un petit montage de différentes phrases du pape de la collapsologie, Pablo Servigne. Du coup, c'est un mec qui a écrit des bouquins et tout sur les théories de l'effondrement. Voilà, et qui fait des très longs discours et tout ça. Donc, on a essayé de couper des bouts. Et que c'était pas hyper facile parce qu'il finit jamais ses phrases. Mais voilà. Et donc, il y a des petits bouts d'extraits de discours de Pablo Servigne sur la collapsologie. Et c'est suivi d'un petit bout de discours de Laurent Baup, qui est un chercheur en climatologie et qui est chercheur au CNRS et qui critique un peu la collapsologie. Voilà.
On a fait un best-of des mauvaises nouvelles de chaque discipline. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est d'interconnecter tout ça et de se rendre compte que chaque crise, en fait, est liée aux autres de manière systémique, ce qui mène à des constats, au constat que c'est imprévisible.
En 2015, dans votre premier ouvrage, Pablo Servigne, vous évoquiez cette possibilité d'un effondrement global en parlant d'intuition. Est-ce que 3 ans, 4 ans après, cette intuition, elle s'est précisée? Est-ce qu'elle s'est transformée en certitude pour vous?
Non, on ne peut jamais parler de certitude. Justement, ce qui est la clé, c'est l'incertitude. Moi, la science n'a aucun moyen de montrer avec certitude qu'il y aura un grand effondrement. Mais, à contrario, on n'a aucune certitude qu'il n'y aura pas d'effondrement. On ne peut pas le montrer.
Donc on navigue là-dedans. Il faut faire le pari que ça va avoir lieu pour s'y préparer si ça a lieu.
Exactement, d'où le titre de l'émission. Et c'était notre posture, on s'est mis sur les traces du philosophe Jean-Pierre Dupuis, qui a, dans son livre « Pour un catastrophisme éclairé », a fait cette pirouette philosophique qui nous paraissait assez pertinente. C'est que quand une catastrophe est incertaine, elle arrive, on va plutôt la considérer comme certaine pour qu'on puisse se mettre en mouvement et avoir une chance de l'éviter. C'est parce qu'on la considère comme certaine qu'on peut l'éviter. Voilà le paradoxe de catastrophisme éclairé.
Mais ça va se passer. C'est pour ça que nous, on dit qu'il faut anticiper les choses et devenir compétent. En émotion, en rituel, en initiation peut-être. Alors c'est des propositions, ça peut paraître farfelu, mais commencer à devenir compétent là-dedans, c'est aussi se préparer à l'émergence de la colère, de la tristesse. Et quand elles émergent au niveau collectif, politique, ça peut faire des dégâts. Ça fait et ça fera des insurrections et on ne sait pas ce que ça va donner. Les gilets jaunes, on ne sait pas encore ce que ça va donner. Donc voilà, à un moment, l'idée c'est de prévoir ça.
Ça fait longtemps que je communique sur le climat, que comme Pablo Servigne, je raconte des chiffres d'abord, puis des histoires. Et au cours des années, je me suis rendu compte que raconter une histoire, ça suffit pas. Souvent, les climatologues ont parlé du scénario du pire. C'est pour ça que le terme effondrement, j'ai l'impression qu'il nous enferme un peu dans une histoire. Et je crois qu'il faut réouvrir et raconter des histoires.
Voilà, du coup, la première personne qu'on entend qui présente ce qu'est la collapsologie et la théorie de l'effondrement, c'est Pablo Servigne. Et du coup, la deuxième, on aura deviné, c'est Laurent Baup.
Ouais, je trouve dans ce discours, il y a déjà un truc hyper confus, qui est un truc sur basé à fond sur la peur.
Mais en fait, c'est ce qu'il dit au début du coup de cet extrait. C'est il a compilé toutes les mauvaises nouvelles pour en faire un scénario probable, pour prévoir comment réagir face à ce scénario probable qui est déjà basé sur en fait toutes les niveaux d'alerte maximum des climatologues qui sont pas du tout certains. Et du coup, nous, un des trucs qu'on s'est dit quand on en a discuté, qu'on essayait de comprendre comment était structuré son discours et qu'est-ce qu'il disait. Du coup, il y avait d'abord, à la fois, c'était un discours qui se valait vachement scientifique et qui, en même temps, mettait en avant qu'il était basé sur de l'intuition.
Oui. Et moi, je trouve c'est dangereux de faire d'un discours basé sur l'intuition un espèce de truc comme une vérité alors qu'en fait c'est basé un peu sur des croyances et que en fait l'intuition et les croyances là c'est pas un truc rationnel. Et quand il dit là par exemple on peut pas prouver qu'il y aura un grand effondrement, mais on peut pas non plus prouver que qu'il n'y en aura pas. Et ben, je trouve que c'est un peu.
On pourrait avancer n'importe. Enfin,
ben, on peut avancer n'importe quel argument, quoi. C'est ça. On peut pas prouver que les licornes n'existent pas. Du coup, il faut se préparer à en rencontrer une demain en sortant de chez soi.
Non, mais ça me dérange pas qu'on critique plutôt la rationalité de la science en disant, ben, en fait, c'est incertain. Mais ce qui m'embête dans son discours, c'est que. Il y a pas c'est difficile de suivre où il va en fait, ce qui rend difficile aussi son comment monter ce qu'il dit, parce qu'en fait on se rend compte quand on décortique que il commence une phrase et en fait il la finit pas, il va sauter sur une autre idée et puis il va prendre par exemple le dernier épisode qui s'est passé là, ah oui comme ça et ça vous voyez, et il finit pas ses phrases alors qu'il les commence comme une démonstration, et enfin c'est impossible à suivre quoi. Et du coup, justement, dans son discours, il y a aussi un truc où, en fait, on va tout amalgamer dedans, quoi. Tout ce qui peut servir la théorie d'effondrement, on va le faire coller à ça.
Oui. Du coup, ça rend le truc un peu confus, en fait.
Bah, ça rend le truc confus. Et puis, c'est pas pour nier des trucs qui existent, enfin, au niveau modification climatique ou des constats qui ont été faits sur la fin du pétrole, etc., la montée des eaux. Mais c'est... comment dire ? Comment on peut en faire une théorie de toutes les catastrophes vont arriver en même temps, il faut se préparer à ça, etc. Et aussi, qu'est-ce qui effraie, en fait ? Enfin, nous, on s'était demandé plutôt aussi qu'est-ce qui effrayait tant Pablo Servigné et du coup, les gens qui le suivent dedans.
On s'était demandé si c'était pas l'effondrement du système capitaliste, finalement, qui effrayait les gens et que nous, en fait, c'était pas quelque chose qui nous faisait peur, finalement, parce que c'était un peu la révolution.
Et je trouve... Il ne faut pas confondre l'effondrement et la révolution, en fait. Moi, l'effondrement du système capitaliste, j'y crois pas une seule seconde. Je pense que ça ne va pas s'effondrer de soi-même. Mais par contre, il y a des gens qui luttent, en fait, pour que ça s'effondre et pour le détruire, en fait. Mais ce n'est pas du tout la même chose, je trouve, de parler d'un monde post-capitaliste, si c'est « Oh mon Dieu, le système capitaliste s'est effondré sur lui-même, tout seul comme ça », ou si c'est « Oh, chouette, on a détruit le capitalisme
!» Bah, c'est ça, il entretient vachement, j'ai l'impression, un discours de peur, en fait, ce qui est assez dangereux, parce qu'on sait que la peur rend les gens manipulables. Et en fait, toutes les fois où les personnes qui l'ont interviewé essayent de le raccrocher à quelque chose de politique, il évite la question, en fait. Il évite la question, les fois où ça a été nommé, mais est-ce que le capitalisme est une cause de l'effondrement ? Il est là, ah, ça peut faire partie des causes, mais il n'y a pas que ça. De toute façon, ça prend du temps de s'intéresser aux causes. Et à un moment donné, c'est, en fait, si tu réfléchis à... Il y a... des catastrophes qui arrivent, si tu réfléchis pas d'où ça vient, en fait, comment tu veux mettre en place des choses pour sortir de ce fonctionnement-là ? Mais tout comme, il y a une dépolitisation de son discours, enfin du discours.
Oui, carrément. Là, quand il parle, il dit ah oui, ça va émerger à un niveau collectif, politique, je sais pas quoi, et il parle de devenir compétent en émotion et en rituel. Et ça va faire un truc de ouf quand ça va émerger en truc collectif et politique. Enfin, moi, je capte pas du tout ce que ça veut dire. Ça. Enfin, c'est juste un truc... ça fait bien, ça fait genre grand discours, mais... Et du coup, bah oui, en fait, si on, bah c'est ce que tu dis, ouais, si on s'attaque pas aux causes et qu'on n'essaye pas d'analyser c'est quoi le système et comment il fonctionne. Et j'ai l'impression un peu dans la collapsologie, les gens ils critiquent un peu le système capitaliste, mais que dans ses excès, on va dire, ils vont critiquer le néolibéralisme à outrance, genre les multinationales pétrolières ou les trucs comme ça. Mais pas la société productiviste, la société de consommation, la société capitaliste, en fait, dans laquelle on vit et qui est le fondement du système, quoi.
Et ils vont étudier aussi l'impact, moi, j'ai l'impression, hein, d'un point de vue individuel et, en fait, pas du tout d'un point de vue du système économique. Ils vont causer, là, des personnes qui sont dans une transition. Du coup, ces personnes qui sont dans leur transition, qui sont un peu les élus de la collapsologie et qui ont vraiment conscientisé les choses, alors que les autres, quand même, ils n'ont pas conscientisé les choses. Et à aucun moment, ils parlent des pollutions qui sont faites par les industries, des déchets toxiques qui sont déversés dans les nappes phréatiques, l'exploitation des mines, ou de l'envoi des déchets, en fait, de nos déchets, des pays du Nord vers les pays du Sud, où en Asie, principalement, on va envoyer les pièces d'ordinateurs et d'électronique. En Afrique, beaucoup de ce qui est lié à l'automobile, les pièces détachées d'automobile, et que souvent elles sont envoyées parfois encore polluées. Et du coup, enfin, ça fait pas du tout partie de l'analyse. Et c'est la plus grosse masse de pollution en fait actuelle.
Bah oui. Non, mais de toute façon, enfin, moi j'ai l'impression l'analyse de Pablo Servigne et de ses petits potes là, et ben c'est ça exclut complètement. Les questions de l'impérialisme, du néocolonialisme et de... Mmh. En fait, bon, je trouve que c'est une petite question de... Ah merde, ça va être l'effondrement de mon petit confort bourgeois, quoi.
Ouais.
Mmh. Et du coup...
Mais on va faire zéro déchet. On va plutôt tous les envoyer.
Et bah non, mais juste je voulais rajouter aussi que ça exclut un peu le côté social, le côté bah ça pense pas les luttes en termes d'analyse de classe, de race, de genre, de ouais. sexualité, en termes de système et
ouais. D'ailleurs, quand on l'écoute, Pablo Servigne, on comprend que, du coup, sa copine ou sa femme a dû bosser pour lui gratuitement pendant qu'il faisait sa thèse et tous ses grands discours.
Parce que tu comprends, c'est dur de faire des recherches. On n'a pas le temps de faire la bouffe et de nettoyer ses chaussettes.
C'est ça. Et il y a juste un dernier truc, moi, je voulais ajouter. Et du coup, par rapport, entre autres, du coup... oui, parce que du coup, on va passer là un extrait d'une interview qu'on va vous introduire après. Et du coup, la personne à cause là de aussi de, en fait, le système de tri qui existe actuellement et qu'on un peu nous force, nous culpabilise si on fait pas. Enfin, c'est assez intéressant, c'est que beaucoup de choses qu'on trie va être servie parce que les collectivités sous-traitent aux entreprises et les entreprises vont revendre les choses qu'on trie, donc on travaille à trier gratuitement pour ces entreprises à l'étranger, quoi,
ouais.
pour recycler en fait.
Mais que si on veut être de gentils écolos, il faut vraiment faire très attention individuellement à ces trucs-là, parce que c'est ça qui va nous sauver de l'effondrement.
Et vous, c'est gratos pour le capital.
peut-être on s'écoute un petit morceau de musique. Ouais, bah, c'est parti, on écoute ça.
Jamais de là, toujours.